Marie de Clésio, nous sommes maintenant à La Ferté-Allée, voilà, sur un plateau qui domine Milly-la-Forêt, où nous étions en visite avec vous. Et puis aujourd'hui, La Ferté-Allée, sur le bord d'un plateau où est installé un terrain d'aviation à l'ancienne, je dirais. C'est sûrement ici que votre grand-père a rêvé d'aéroplane.
Oui, il a rêvé d'aéroplane. Il avait même construit une maquette d'avion qu'il devait présenter à l'exposition, je crois. Et tout ce qui restait de cette maquette dans ma famille, c'était une hélice en bois qu'il avait fabriquée. Enfin, il avait fait tourner, fabriquée par un ébéniste, une hélice pour sa maquette. Et je pense qu'en effet, c'est là qu'il venait. Ça donne l'impression d'un endroit aussi où le temps n'est pas passé.
Oui.
On voit tous ces grands oiseaux qui volent encore, qui sont...
Oui. C'est un musée, mais un musée vivant, c'est celui de Jean Salis. Donc, il s'appelait déjà d'ailleurs Salis, c'était son père ou son grand-père, que votre grand-père a dû connaître. Et c'est un musée vivant qui concentre toute l'histoire de l'aviation.
Oui, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans ces engins qui viennent d'une autre époque et qui pourtant sont encore capables de voler. C'est fantastique, l'odeur des moteurs, l'aspect même de ces avions. Ça évoque l'aventure, ça évoque l'ivresse d'être en suspens dans l'air. Et je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver devant ça. C'est très différent au fond de l'aviation telle qu'on la connaît actuellement. C'est quelque chose de plus, au fond, de plus près du mythe, plus proche de l'imaginaire que de la technique.
Ah oui, on peut parler du mythe. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y a une thèse qui est parue sur vous, Jean-Marie Le Clésio, qui s'intitulait « Jean-Marie Le Clésio et le mythe d'Icare ».
Oui, j'ai lu la thèse. Mais le mythe d'Icare, en effet, parce que c'est... Je crois qu'au fond, tout être humain a en lui ce désir de se séparer de la Terre et de connaître cette ivresse des oiseaux, de ne plus être rattaché à rien, d'élargir son horizon, que le ciel devienne la Terre et qu'on soit voisin des nuages.
Oui.
J'ai volé moi-même dans des petits avions comme ça. Enfin,
comme pas celui-ci, par exemple, là, il y a devant nous un biplan qui date de la Première Guerre mondiale, avec des roues qui sont, voyons, qui évoquent plutôt des roues de charrette ou
de brouettes.
Non, ces avions-là, je ne les ai pas connus, mais enfin, j'ai volé dans des tout petits avions, ce qu'on appelle les avionnettes, c'est-à-dire les pipers, ce type d'avion. Et ce qui est étonnant, c'est le sentiment que le moteur est presque accessoire dans l'avion. Ou du moins qu'on peut se débrouiller un peu comme la bicyclette peut se débrouiller. On peut se débrouiller en roue libre.
Mm-hmm.
On a le sentiment là d'une liberté totale par rapport au moteur et à tout ce qui fait la technique. On a l'impression qu'il faut sans cesse improviser, calculer. Mais enfin, vous le savez vous-même, puisque vous pilotez.
Et là, devant nous, sont alignés des avions très anciens. Un Dakota, un ancien Dakota d'Air France. Un Lockheed 18.
Oui, ces avions qui ont été utilisés assez récemment, je crois, dans la guerre du Proche-Orient, on utilisait ces avions.
Je connais un pilote qui a rénové un avion comme celui-ci, exactement le même, qui l'avait racheté en Floride. À un paysan à qui cet avion servait à transporter des poussins.
Ouais. Moi, je crois que j'ai voyagé au Pérou dans un avion comme ça, qui allait de Lima à Iquitos. On franchissait la cordillère. Il me semble que c'était un avion comme ça. C'était un avion qui atterrissait sur une piste très courte.
Et puis là, il y a le North American T6, l'ancien avion d'entraînement des chasseurs américains.
Celui-là, il faudrait penser plutôt à un requin qu'à un oiseau.
Ouais.
On est encore très près de l'imaginaire. On a l'impression que l'avion doit traduire ici il doit être menaçant ou il doit donner une impression de vitesse. Oui. Alors on le fabrique pour ça. On lui donne un aspect physique. En tout cas, c'est lié dans l'imaginaire. On n'arrive pas à savoir si c'est ça qui nous fait imaginer l'aspect qu'il a, ou bien si c'est tellement ancré en nous que ça ne peut pas être autrement. On a découvert des formes en découvrant en fond ces avions. On mettait à jour des formes qui n'appartenaient pas tout à fait à la nature et qui maintenant sont devenues, font partie de la nature.
Vous voulez dire qu'on a, en créant l'avion, on a inventé une forme, mais on a aussi peut-être retrouvé une forme qui préexistait, c'est pas dans l'esprit quelque part ou...
Oui, oui. Là, celui-là, cet avion, là, c'est un look-in, non ? Oui. Fait penser à un animal marin, plutôt. Je pense que là, c'est l'aérodynamisme qui a fait ça, mais on ne les ferait plus aujourd'hui comme ça. Donc on a découvert une forme qu'on a abandonnée, et la forme est restée dans notre imaginaire, ce qui fait qu'aujourd'hui on est un peu déçu peut-être par les formes des avions, parce que ça ne se rapproche plus de l'idée de vitesse que peut donner un dauphin ou un requin.
Vos pages de romans sont souvent traversées par des avions.
Oui, les avions à hélice en particulier. C'était la forme de l'aviation qui me... Je crois que tout enfant et même tout homme rêve en voyant passer un avion dans le ciel. C'est ce tracé givrant qu'il laisse dans le ciel. Puis même le bruit très éloigné du moteur. Oui. Ce bruit, on a l'impression qu'il vient de tous les côtés à la fois. Je crois que c'est une impression très forte et qui traduit un rêve de voyage, d'aventure, de liberté en fin de compte. On échappe à toute contrainte.
Vous n'avez jamais été tenté par le pilotage ?
Si, plusieurs fois. J'ai essayé en Thaïlande, j'ai essayé ensuite au Panama. Mais je n'ai pas donné suite, il fallait une certaine assiduité. Et les leçons étaient données dans des aéroports militaires, ce qui n'était pas toujours facile. Mais je n'ai pas perdu espoir de réaliser ce vieux rêve.
Pour revenir au mythe d'Icare, Jean-Marie Le Clézio, en dehors même de l'appareil, ce principe d'élévation... Ça, c'est quelque chose qui est moteur dans vos livres.
Oui, je crois que le désir d'échapper à toute astreinte terrestre, c'est-à-dire au fond d'avoir une vision plus large, plus grande, et de voir plus loin, de ne pas s'attacher aux mêmes détails, et puis cette lenteur de l'avion aussi peut-être.
Lenteur ?
Oui, quand on est haut et la Terre bouge très lentement. C'est cela qui est agréable, c'est cette ivresse-là, je crois, qu'on a en avion. C'est d'être, au fond, très loin de l'idée de vitesse que l'on peut avoir sur la Terre. Tout semble ralenti en suspens, mais Saint-Exupéry a écrit des choses magnifiques là-dessus.
Mais vous-même, Jean-Marie Le Clézio, je me souviens, lequel de vos romans commence par un petit garçon qui regarde des avions ?
Ben, je crois que dans tous mes romans, il y a un avion qui passe. Il faudrait vérifier, mais je crois que dans tous mes romans, il y a un avion qui passe. Parce que c'est une des formes visuelles de la liberté. C'est au fond, si on devait schématiser l'espérance, sans aller jusqu'à être pompier, en schématisant l'espérance, ce serait un avion qui passe, je crois. C'est l'espoir qu'on peut avoir. Et... peut-être lié aussi pour moi à des images très anciennes. Je me souviens de la guerre de 39-45, j'étais à Nice, et il y a eu un combat aérien juste devant la maison où j'étais, et de toute la guerre, je n'ai gardé que cette image extraordinaire et finalement très belle d'avions s'affrontant et s'esquivant. Enfin, c'était une sorte de ballet aérien, et je n'éprouvais pas la moindre crainte. Peut-être à tort, mais je ne sentais pas du tout la moindre crainte. Et je crois que je suis resté avec cette idée que cette aviation, l'aviation de cette époque, cette aviation très, très individualiste, avait quelque chose de fabuleux, de presque chevaleresque. Et on peut retrouver ça encore aujourd'hui en allant voir ces vieux avions ici sur ce terrain.
Et l'esprit de chevalerie, vous le trouvez aussi encore dans le monde contemporain, en Europe ou plus ?
Il me semble qu'il peut exister en effet dans ces domaines tels que l'aviation ou la marine, des domaines où l'être humain peut finalement est confronté peut-être, grâce à la précarité de la machine, est confronté à des situations difficiles et où il doit compter seulement sur lui-même, sur son regard, sur ses instincts, sur son réflexe. Il me semble que ça c'est une occasion de voir ça apparaître, certainement. En tout cas sûrement pas dans des situations très difficiles ou dans la vie quotidienne. Je crois qu'il faut cette part de rêve pour pouvoir supporter en effet la réalité difficile des routes surchargées et des aviations de charter qui sont un peu difficiles à vivre.
Mais lorsque je vous vois là, dans ce décor très particulier, Jean-Marie Le Clézio, au milieu de ces jouets magnifiques sur ce terrain, j'imagine qu'en vous regardant là, je me dis que vous auriez pu... interpréter les Chevaliers du Ciel. Je trouve vraiment que vous avez la silhouette du... Non ?
Je ne sais pas.
Tel qu'on la représente, en tout cas, tel qu'on représente ce personnage dans les bandes dessinées, qui oui, vous sont chères, d'ailleurs.
Moi, je vous vois sur fond de Dakota, et je trouve aussi que c'est bien. Au fond, je crois que ce sont des architectures, des créations humaines qui sont esthétiquement parfaites. On avait atteint une perfection. Justement parce que peut-être on avait révélé ces formes aérodynamiques tout en se tenant assez proche de ce qui existait dans la nature, c'est-à-dire la forme du poisson ou de l'oiseau. Ce qui fait qu'on a atteint une perfection, cet équilibre entre ce qui existe et ce qu'on imagine, entre l'animal et l'homme en fin de compte. Et c'est très saillant, c'est très beau.
Bon et voilà Jean-Marie Le Clézio, on va quitter ce terrain de la Ferté-Alais.
Oui, j'ai vu là des choses extraordinaires que je ne pensais pas pouvoir voir. J'avais des avions que je n'avais vus qu'en photographie ou en vignette. Tous ces avions qui volaient un peu avant la guerre et puis pendant la guerre. Les Spitfire, les avions, les bombardiers transformés en avions pour photographier. Et c'est tout à fait étonnant. Oui. Les formes surtout sont très étonnantes et même les couleurs. On a l'impression que on voit apparaître des formes qui parlent d'un autre monde un peu.
Une impression presque de surnaturel.
Oui, une impression de surnaturel. Je pensais à ces peuples qui ont fait des statues pour vénérer les avions. Et il me semble qu'il y a dans l'avion quelque chose en effet qui presque surréel, enfin qui appartient à un ordre supérieur.
Oui. Là, les hangars se ferment derrière nous. Et en plus, on est vraiment dans la campagne. On entend des cloches, des coqs, des chiens. Il y a la vie qui est terrée, là, tout près de ces objets muets.
Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire, en effet, dans cette campagne si paisible et si familière, et ces grands oiseaux arrêtés, immobiles, qui parlent d'un autre temps et qui parlent d'autres ciels et d'expéditions et de voyages fabuleux. Ça, je crois que c'est ça qui fait rêver, en fond. C'est ce qui, dans la campagne parisienne, peut parler de l'Afrique, du ciel, de l'Amazonie, des franchissements de la cordillère des Andes, ou bien simplement des combats qui avaient lieu au-dessus de la Manche, ce qui échappe au temps quotidien, au temps de tous les jours.
Et pour vous, écrire, est-ce que c'est justement échapper au temps quotidien, au temps de tous les jours ? Est-ce qu'il y a cette volonté de durer qu'on a pu vérifier avec vous à travers ces avions, à travers une certaine maison ?
Oui, ça serait bien d'écrire comme on vole, c'est-à-dire décoller et perdre le contact avec une réalité qui souvent vous crée des tas d'ennuis et inventer une autre vie, une autre dimension. Et puis revenir sur Terre avec, un peu comme Saint-Exupéry disait, avec cette espèce de vision différente. Je crois que ça c'est... Enfin, écrire, oui, c'est un peu ça. Ça serait bien si c'était ça. Peut-être parfois, en effet, c'est un peu ça.
Eh bien voilà, Jean-Marie Le Clézio, nous allons quitter le terrain de la Ferté-Alais. On reprend la voiture, on va reprendre l'autoroute. Et puis, ce sera terminé, enfin. Je reste sur cette phrase que vous me disiez, écrire c'est comme voler.
Oui, je pensais que j'avais vécu là depuis le commencement de cette émission, j'avais vécu des choses assez intenses avec vous.
Ah oui.
La rencontre de cette maison, dans cet endroit si paisible, où on avait l'impression que le temps n'avait pas changé, n'était pas passé. Et ensuite, cette vision des avions immobiles là, sur le bord du champ d'aviation. Avec cette impression qu'à chaque instant ils allaient pouvoir s'en aller et que tout allait pouvoir recommencer. Au fond, je crois que c'est ça un peu que j'avais souhaité et que ça s'est produit. L'impression que on avait pu traverser l'illusion du temps, passer de l'autre côté des choses et retrouver une réalité que je croyais disparue. Et c'est vrai qu'écrire, c'est un petit peu ça, hein, au fond. Et quand je pensais qu'écrire et voler, c'était la même chose, c'est parce que, au fond, quand on doit monter dans ces avions, et de même que quand on arrive devant cette maison de Milly-la-Forêt, on peut oublier complètement le passage du temps, on peut oublier ce qui, au fond, est tout ce qui est accessoire dans la vie quotidienne. C'est ces choses auxquelles on s'accroche, ou qui vous accrochent et vous égratignent, et n'ont aucune importance. Et quand on vole, en effet, on doit pouvoir avoir cette impression plus vaste et plus large et respirer mieux, peut-être.
Vous avez employé l'expression qui est aussi le titre d'un de vos livres, justement, « Un voyage de l'autre côté ».
Oui, de l'autre côté de l'horizon. Ce qu'on ne peut faire qu'en volant, effectivement, ou en étant sur une très haute montagne, ou en étant sur la mer, ou simplement en regardant au fond de soi-même, ou en vivant avec intensité quelque chose, une passion, on peut atteindre cette, non pas cette surréalité, mais cet autre versant de la réalité.
C'est peut-être pourquoi, je ne sais pas, je vais vous poser une question très personnelle au fond, puisqu'on en est aux confidences là. Mais j'imagine que ce sentiment que j'ai, beaucoup de vos lecteurs le partagent. Lorsque je pense à vous, je pense à un écrivain dont on n'a pas seulement un grand plaisir à lire les livres. Je crois qu'il y a quelque chose au-delà du plaisir littéraire. Est-ce que vous êtes conscient de susciter ce genre de sentiment? Et voyez-vous de quel sentiment il s'agit?
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, parce que c'est en effet les livres que j'aime. Ce sont des livres qui me donnent l'impression d'avoir quelque chose d'un peu magique qui échappe. Il n'y a pas seulement les mots, il n'y a pas seulement l'histoire du livre. Il y a tout ce qui est entre les lignes, comme on pourrait dire, ou bien ce qu'on devine. Et qui fait que, au fond, pour l'écrivain aussi, celui qui écrit, c'est une aventure totale, parce qu'il échange des non-dits, il échange des silences, il échange un regard, au fond, sur les choses. C'est quelque chose qui se fait ensemble. On ne peut pas faire ça tout seul. Je crois qu'aussi, quand je disais voler, c'était un petit peu aussi à ça que je pensais, parce que quand un merveilleux fou monte dans un de ses avions, c'est vrai qu'il ne peut pas le faire tout seul. Oui. Il le fait aussi avec le regard des gens qui le suivent, il le fait. Et c'est une sorte de rêve commun, je crois. Et quand la littérature atteint ça, c'est fort, c'est vrai, c'est beau.
Et du coup, vous donnez ce sentiment d'un au-delà du plaisir littéraire, et qui fait, cet au-delà fait partie de votre mystère aussi. C'est le mot sagesse qui me vient à l'esprit. Une certaine forme de sagesse, un certain mode d'être qu'on devine à travers le mystère même de votre vie à vous, dont nous ne savons presque rien finalement.
Sagesse, ça fait toujours penser à quelqu'un avec une longue barbe et une longue expérience et un petit peu d'amertume souvent sur les choses. Mais oui, enfin, sagesse dans un sens où on sait aussi ne pas être sage, on sait aussi s'amuser avec les choses. Ce serait bien que les sages soient aussi un peu des fous et des gens qui savent rire.
C'est vrai que le mot lui-même, le mot sagesse, a de la barbe, comme vous dites. Mais il ne s'agit pas, c'est vrai, de cette sagesse-là. Il faudrait gratter le côté ancien du mot et le côté présocratique, ou je ne sais pas. Et peut-être qu'on découvrirait une certaine philosophie qui vous est propre, qu'on devine justement entre les lignes de vos livres, non ?
Non, pas du tout. Je crois que c'est bien pour moi, parce que ça serait avoir de la barbe, justement, que d'être conscient de ça. Non, je pensais à, pour certains peuples qu'on dit sans culture, les sages sont souvent les fous, ce sont les gens qui remettent en question. Oui. Ce sont les gens qui ont quelque chose qui leur a frappé la tête, ou qui sont, je ne sais pas, quelqu'un qui bégaye, ou quelqu'un qui a un regard étrange. C'est quelqu'un qui est aussi capable de vous apprendre quelque chose. Et je crois qu'il faut trouver ça aussi dans la littérature. Il me semble que Si je pense au livre que j'ai le plus aimé, au livre de Conrad, par exemple, il me semble qu'il y a quelque chose de ça, de la folie, quelque chose d'excessif. Et c'est dans cet excessif aussi qu'on peut trouver une révélation, qu'on peut apprendre quelque chose. Je veux dire, se passionner pour des vieux avions, c'est aussi un peu de la folie. Et les formes de ces avions donnent des impressions aussi de folie, comme on peut imaginer que ça peut être tenu pour fou d'aller sur un bateau à travers l'océan Atlantique, ou comme ça peut être tenu pour être... On peut être tenu pour fou de vouloir être berger à tout prix dans une époque où on n'a pas besoin des bergers. Et je crois que c'est là qu'on peut, on peut découvrir en effet quelque chose de sage dans la folie. Et l'écrivain, qui lui est un monsieur qui gratte du papier avec un crayon et qui vit de façon très, souvent très artisanale et qui bricole souvent des tas de choses. Il rajuste des choses qui ne vont pas ensemble. Un peu comme ce tendeur qu'on a vu tout à l'heure sur un avion. Il s'efforce de faire voler des mots, il s'efforce de faire marcher une machine. Bien, c'est un peu sa forme de sagesse, souvent. C'est de ne pas, au fond, faire trop confiance à la technique et d'être un peu pas l'épine dans le pied, mais d'être un peu le point sensible, le point douloureux d'une société trop parfaite, qui fonctionne trop bien.
À propos de ce tendeur, je précise que vous avez été frappé, Jean-Marie Le Clézio, par la vision d'un Sandeau qui dirigeait une gouverne d'un DC-3 et qu'un maraîcher, dans l'état où il était, n'accepterait pas d'utiliser pour fixer son cajot de légumes à l'arrière de sa bicyclette, probablement.
Et pourtant, ça vole et ça marche parfaitement.
Mais pour revenir à la sagesse et à la folie, quelle est votre folie à vous ?
Écrire, sûrement. Ça doit être la principale, puisque c'est contraire à toutes les règles de bienséance et d'efficacité et de vie comme tout le monde. Et écrire, ça implique qu'on ne vit pas tout à fait comme tout le monde. Mais en même temps, c'est une... Je crois que c'est peut-être là aussi une part de ma folie, c'est de croire dans la liberté. Je suis persuadé qu'on est libre et que écrire, c'est une façon d'exprimer cette liberté.
Mais vous dites qu'il est malséant d'écrire ? Enfin, vous avez dit qu'il n'était pas bienséant d'écrire. C'est quelque chose qui vous semble incongru dans l'époque ?
Oui, c'est incongru parce que c'est très artisanal, comme je disais. Et puis c'est aussi... que c'est un peu un métier de saltimbanque malgré tout, parce qu'on n'a pas vraiment d'assurance, on n'entre pas vraiment dans une fonction, on se demande souvent à quoi on sert en vérité. C'est un des problèmes des écrivains, ils se posent souvent cette question: est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Donc en ce sens c'est incongru, oui. Mais si on valorise avant tout la liberté, c'est vrai que je crois que ça a une certaine utilité, comme ces vieux avions qu'on vient de voir, comme ces folies, comme la folie Altmaier et comme toutes les folies, je crois que ça a une utilité.
Et après cet essai sur le Mexique, vous avez des projets romanesques ou vous écrivez actuellement ?
Oui, j'ai écrit déjà un livre qui paraîtra peut-être prochainement. Je suis en train d'écrire un roman aussi... qui se passera en partie en Afrique et au fond qui raconte un peu des souvenirs d'enfance, souvenirs de voyage que j'ai fait, ces souvenirs de voyage dans lesquels justement j'écrivais et que je voyageais. Et puis un livre de nouvelles qui doit paraître normalement à la fin de cette année ou au début du printemps. Ça s'appellera Printemps d'ailleurs.
Printemps. Et pour revenir à ce roman que vous écrivez sur le voyage en Afrique, alors vous faites allusion là à votre voyage au Nigeria, je crois, avec votre père, lorsque vous aviez 7 ou 8 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'ai pris un bateau avec ma mère, on est allé retrouver mon père en Afrique, un voyage qui a duré un mois, et j'ai l'impression que ce voyage, ce déplacement en bateau d'un mois a duré plus d'une année. C'était extraordinaire, c'était tout à fait... C'était infini pour moi, ce voyage. Je crois que je n'ai jamais cessé de penser à ce voyage. Et puis, l'Afrique aussi, mais je crois que je n'ai pas vu grand-chose de l'Afrique. J'ai vu surtout les termites, la terre craquelée par la chaleur, la sécheresse, des serpents, des grandes herbes. C'est le souvenir que j'ai de ça. C'était plutôt ce voyage, l'idée de ce voyage, ce déplacement dans un paquebot, sur le pont du bateau, Il y avait des Noirs qui payaient leur voyage en frappant un coup de marteau pour enlever la rouille du bateau. Et j'ai encore dans les oreilles le bruit des marteaux frappant le pont pour enlever la rouille.
C'est peut-être alors ce voyage que vous refaites sans cesse, d'une certaine manière, lorsque précisément vous allez au Mexique ou bien que vous en revenez ou... Non ? C'est une façon de revivre pour vous
Oui, je crois que j'ai été suffisamment frappé par ce voyage pour avoir envie de le refaire, tout en sachant très bien que je ne pourrais jamais refaire le refaire parfaitement, puisque ces paquebots et ces cargos mixtes ont disparu maintenant, sont devenus les épaves dont on parlait tout à l'heure, qu'on voit échouer dans les rades ou sur des bancs de sable à l'entrée des estuaires. Oui. Je crois que c'est une société, une civilisation qui est morte à ce moment-là. J'ai été sur le bord, sur la crête de cette vague, et maintenant c'est disparu. J'essaye de retrouver ça. C'est un peu mon temps perdu.
Puisque vous parlez de civilisation morte, ça nous ramène tout naturellement aux Aztèques. Qu'est-ce que cette civilisation et sa disparition peuvent nous apprendre à nous aujourd'hui ?
Moi, je crois qu'elles offraient toutes sortes de leçons qu'on devrait bien écouter, des leçons sur l'écologie, sur l'équilibre de l'homme avec la nature, sur l'équilibre de l'homme avec lui-même. Elles étaient, je crois, toutes fondées sur l'équilibre, sur la notion d'équilibre. L'équilibre entre le magique et le réel, l'équilibre entre la vie et la mort, entre l'individu et la société. Et c'était une série d'équilibres. Et la société européenne, société technologique et fondée sur l'efficacité, est entrée, et le déséquilibre n'a jamais cessé depuis.
Nous avons perdu l'harmonie.
Oui, je crois que nous avons perdu l'harmonie. Nous pouvons en retrouver, comme nous venons de le faire aujourd'hui, nous pouvons en retrouver les traces dans des lieux privilégiés comme Mille-la-Forêt, ou comme ce champ d'aviation de la Ferté-Alais. Mais c'est devenu très difficile à retrouver. On trouve seulement des traces de l'équilibre. Donc ces sociétés ont encore cela à nous apprendre. Je crois que si on sait écouter les messages qu'elles ont laissés, parce qu'elles sont mortes en laissant ces messages, si on sait lire ces messages, on peut retrouver ça.
C'est peut-être ça le secret de l'Ecclésio, au fond, l'Ecclésio écrivain. C'est peut-être ça le maître mot, le mot-clé, harmonie.
Peut-être, oui, peut-être. Et en tout cas, écrire, c'est vrai, je n'arrive pas à concevoir l'écriture autrement que cette recherche d'un équilibre. C'est vrai que si je parvenais à trouver cet équilibre, je crois que je ne ressentirais plus le besoin d'écrire. J'écris dans l'idée, un peu comme on va en vélo, dans l'idée qu'il faut que ça avance pour qu'on ne tombe pas.
C'était À Voix Nue, Jean-Marie Leclésio, des entretiens de 1988.